بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل. اللهم بصرنا بعيوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله nous allons continuer nos cours de tawhid. Donc on a terminé les chapitres qui concernent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que nous devons lui qualifier, tout ce que nous ne devons pas qualifier à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière fois, on a parlé de la mort, de la tombe, du monde, tout ce qu'on appelle le barzakh, hein?
Intermédiaire.
La vie intermédiaire entre la vie d'ici-là et le monde de l'au-delà. On a dit qu'en tant que musulman, notre conception de la mort, elle diffère par rapport à aujourd'hui, on va dire, même les chrétiens sont plus très pratiquants. Hein. L'homme de la rue maintenant, je ne connais personne, pour eux, la majorité des gens, ce n'est pas des pratiquants, même la croyance, ils ne connaissent pas très très bien, vous dites chrétien comme ça, parce que ses parents, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, pour la majorité des gens aujourd'hui en Occident, la mort, c'est la fin. Hein, c'est la fin, c'est après la mort, c'est le néant. Comme ils ont dit à l'époque du prophète, ce sont que des ventres qui donnent des créatures et une terre qui absorbe ces créatures-là. Hein? Ils ont dit, il n'y a que cette vie, il n'y a pas d'autre vie. Par contre, nous, ce n'est qu'un passage. C'est-à-dire le sérieux commence vraiment après la mort. C'est-à-dire, vraiment, c'est là que commence le sérieux. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que déjà, dans cette vie, premièrement, elle est limitée. Deuxièmement, le supplice et les châtiments, c'est-à-dire ce que nous savourons ici, n'est rien par rapport à ce qui nous attend au paradis. Et pour ceux qui souffrent ici dans cette vie-là, la souffrance, c'est-à-dire de l'enfer, c'est rien par rapport à cette souffrance. Cette vie d'ici, elle est rien. Hein, elle est rien.
Elle est
éphémère. Sayyiduna Nuh qui a vécu 1350 années. Il a vécu 1350 années, 950 années que dans la da'wah. Que dans la da'wah. Quand Malik al-Mawt lui a posé la question, toi qui as vécu, parce que c'est la première fois qu'il va prendre quand même une âme d'un personnage qui a vécu toute cette période, il a dit, alors, que penses-tu de cette vie ? Il a dit, c'est comme si je suis rentré d'une porte et je suis sorti de l'autre porte. C'est rien. Tu rentres par là, tu finis par là. Et c'est la même chose. Vous regardez les gens qui ont 80 ans, 90 ans. C'est-à-dire, pour nous, ça veut dire, 80 ans. Tu vas le voir, tu dis, non, ça est passé comme un rêve. Donc, il ne faut pas te dire que vraiment, cette vie, elle est... Faire très attention. Ça, on en a parlé. On a parlé du monde, du barzakh, hein, de la tombe. On ne va pas en revenir, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler des signes, hein, de fin des temps. Alamat al-sa'a ou alamat al-qiyama. Donc la fin des temps. La fin des temps, il y a des signes. Sayyidina Jibra'il, quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. C'est-à-dire, Sayyidina Jibra'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le célèbre hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari Muslim, qu'on appelle le hadith d'Amr ibn al-Khattab. C'est Ibn Khattab qui cite ce qui s'est passé. On sait tous que les grandes bases de la religion sont citées dans les trois grands chapitres, à savoir l'Iman, l'Islam ou l'Ihsan. L'Iman, c'est la croyance, ce que nous devons croire, etc. Le prophète s'en a détaillé ça. L'Islam, c'est la jurisprudence, c'est-à-dire comment nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala et nos rapports entre homme et homme et nos rapports avec Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième partie, c'est l'ihsan. On peut l'appeler ihsan, on peut l'appeler soufisme, on peut l'appeler spiritualité, on peut lui donner le mot qu'on veut. C'est-à-dire, c'est la sincérité. C'est-à-dire, c'est que tu adores Allah Azza wa Jal, c'est comme si tu le vois. Et si tu n'arrives pas à cette station, c'est-à-dire, sache qu'il est en train de te voir. Donc, mais en même temps, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, Sayyidina Jibril pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît la réponse. Mais, comme disait Sayyidina Amr ibn al-Khattab, Il lui pose la question, et quand le professeur Aslam répond, il dit « Sadaqt », il lui dit « Oui, tu as raison ». C'est une preuve qu'il connaît la réponse, quelqu'un qui dit à l'autre « Oui, tu as raison ». Donc, il lui a posé la question sur « Qala akhbirni anis sa'a ». Dis-moi, quel est le temps, c'est-à-dire c'est quelle date. On va trouver un hadith qui est fabriqué, qui est faux, hein, que « Sa'a », yani « Al-Qiyama », c'est 7500 ans, ça c'est un hadith faux. Hein, on peut le trouver comme ça, des fois, des gens, ils peuvent, dans les tafsirs, dans les livres, ils peuvent ramener comme ça des précisions pour mettre... Non, hadith maudou'. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيام الساعة قال 7500 سنة حديث موضوع c'est un hadith fabriqué faux donc qu'on peut trouver un peu dans les livres des sunan. Donc personne, le professeur a répondu مسائل علم بها من المسؤول, il a dit je suis comme toi, il a répondu je suis comme toi, j'ignore. قال أخبرني عن أماراتها, il a dit donc donne-moi les signes de précurseur de la fin des temps, hein, de Qiyama, il a donné des signes. Donc les signes, le professeur Asselm a commencé à citer. Donc les signes, il y a quelques signes, on les trouve dans le Coran Karim, mais la plupart des signes sont dans la Sunna. D'accord? Comme quoi, Sunna al-Mutawatir, la Sunna authentique rapportée par 10 compagnons, et 10 rawat, jusqu'au dernier narrateur, Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Ahmad, il a réveillé d'Alik, tout ça s'appelle Sunna Mutawatira, puisque tant qu'il y a 10, quand il y a 10 hadiths al-Mutawatir, il faut qu'il y ait rapporté par 10 sahabis, des tabi'in, minimum 10, jusqu'à en bas, Bukhari, Muslim, etc. S'il y a au milieu un, il n'est plus mutawatir, il est ahad. D'accord? Donc il faut qu'il y ait 10 dans chaque, pas seulement 10 au début. D'accord? Aïe. Donc, c'est un hadith, pour prendre un hadith, pour qu'un hadith soit pris dans la science du tawhid, il faut qu'il soit mutawatir. Pas ahad, pas rapporté par un ou deux ou trois. Le hadith al-jariya aïn Allah, il est rapporté par un seul sahabi, que savoir, c'est une jariya. D'accord? Donc il ne faut pas le prendre dans le hadith, bien que le hadith il est rapporté chez l'imam Malik par Atashhadina. Il ne lui a pas dit aïn Allah, mais il a dit Atashhadina. Taïb, on ne va pas rentrer dans ce sujet, on le traitera une autre fois, Inch'Allah. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des signes de fin des temps dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Il lui a dit, il a commencé par dire, premièrement, Antalid al-Amatu Rabbataha. Il y a du premier signe, c'est que une femme, elle va donner naissance à une fille qui va être, c'est sa maîtresse, voilà, c'est sa maîtresse. C'est-à-dire, vous avez l'esclave et vous avez le seigneur. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément la femme, Antalid al-Amatu Rabbataha, l'homme aussi. C'est-à-dire que l'esclave va donner naissance à son seigneur. Ça veut dire
le père devient esclave.
Ah, ouais. Le père devient esclave. Wahada, comment il a été commenté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a beaucoup de commentaires. L'un des grands commentaires, c'est de la métaphore. C'est que dans la fin des temps, les enfants, tellement ils vont pas écouter leurs parents, tellement ça sera des enfants qui vont sortir de... C'est-à-dire, ils vont parler d'une façon, c'est comme si un seigneur parle à son esclave. C'est-à-dire, ils vont parler à leurs parents d'une façon dure. Ils ne vont pas écouter leurs parents, etc. D'autres commentateurs du hadith, ils ont dit non, ce n'est pas de la métaphore, c'est une vérité. Parce qu'il va y avoir un moment où les gens, il y aura plus de mariages, comme on le voit ici aujourd'hui. Les mariages n'auront pas d'importance. Les uns vont coucher, excusez-moi du mot, avec des autres, etc., à gauche, à droite. Et il se trouve que quelqu'un va tomber, il va rentrer, il ne sait pas que c'est sa maman. Et pour des circonstances, il va l'inviter, etc. Elle devient sous sa responsabilité. Elle devient sous sa responsabilité. Pas qu'il va l'acheter, elle devient une esclave. C'est-à-dire, elle devient sous sa responsabilité. Il sera son chef. Il ne sait pas que c'est sa mère. Tellement les mariages, etc. C'est-à-dire les liens de parenté sont complètement cassés. Et on le voit aujourd'hui. On a connu des cas, des gens, après des années, ils sont avérés que tel, finalement, sa mère, c'est tel, et il ne le sait pas, après, on le voit. Voilà. Et il y a un autre commentateur qui dit non, il va y avoir, effectivement, c'est-à-dire l'esclavage va revenir, et il va y avoir des gens qui ne connaissent pas leurs parents, etc., qui vont acheter des personnes, et ces gens-là, il s'avère que effectivement, seront leurs parents. Donc, il y a trois possibilités. Mais ce qui est à retenir, c'est que la chose la plus importante, c'est que des choses anormales, qui vont se passer, c'est-à-dire enfin, nos parents, nos chouyours disent, quand ils voient une chose vraiment bizarre, ils disent Subhanallah, alamat al-qiyam, ils disent Subhanallah, c'est la fin des temps, regarde-moi ça. C'est-à-dire même si ce n'est pas vraiment les signes de fin de temps, mais des choses terribles, anormales qui vont se passer. Antalid al-amat wa rabbataha, wa antara al-hufat al-urat, ra'a shaya tatawaluna fil bunyat. Tu verras que les gens que d'habitude on voit, que ce sont des gens pauvres, hein, qui sont, ils n'ont même pas des habits pour se couvrir, ra'at shahi. C'est-à-dire, ils ont des bergers de troupeaux, etc., hein, de chameaux et de moutons, etc. Subitement, ils deviendront des gens qui ont des grands bâtiments, des gratte-ciel. Ils vont faire une concurrence qui va avoir plus d'étages que l'autre. Je vous laisse deviner où c'est le cas. Hein, ce n'est pas la peine de vous faire des signes. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Dans le début du siècle, au Koweït, etc., avant la découverte du pétrole, c'était des bédouins qui avaient, hein, qui c'était des gens et qui avaient des troupeaux, etc., etc. Mais subitement, aujourd'hui, hein, au Maghreb aussi, chez nous au Maghreb aussi, les gens, ils font des concurrents. Ah, toi, tu as 4 étages, moi je vais faire alors 6. Et lui, ça fait pas longtemps, c'était quelqu'un qui avait, il n'avait même pas, hein, lui ou bien sa famille, ses parents, ils n'avaient même pas la possibilité d'avoir un morceau de pain. Effectivement, donc ce sont des gens qui vont devenir riches rapidement, richissimes très très rapidement. Ils ne connaissent pas la valeur de cet argent, c'est-à-dire ils vont bâtir des constructions juste pour faire la concurrence entre eux, par jalousie. Taïb, on va passer, Inch'Allah. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il ramène ceci. Dans d'autres hadiths, il ramène aussi que... Il y aura énormément de tremblements de terre, et on voit dans ces derniers temps, il y a pas mal de tremblements de terre. Ça, c'est les petits signes, hein, c'est les signes mineurs. Ah, ouais. Aussi, il y aura beaucoup de maladies qui n'ont pas existé dans l'histoire. On voit aujourd'hui avec le sida qui fait des ravages, on voit aussi avec le cancer, donc ce sont des maladies que l'histoire de l'humanité n'a pas connues. L'histoire de l'humanité a connu d'autres maladies qui ont fait des ravages aussi, mais ces maladies-là, ce sont des maladies nouvelles. Donc on va aussi constater qu'il y a des yakthuru ad-dajjalun, c'est-à-dire des gens qui mentent, hein, qui mentent. Les menteurs, quand on dit des menteurs, dans toute discipline confondue, hein, dans toute discipline confondue, pas forcément dans la religion, mais en politique, en économie, ceux qui écrivent soi-disant, ils font guérir les gens, les charlatans, etc., etc. Wa khutaba us-su', ça dérange aussi, il y aura Allah yahfadna, des gens qui vont prêcher, les gens vraiment qui n'ont rien à voir avec de la science. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, innama yafa'u Allah biqabdi al-ulama. Dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala prend cette science en prenant l'âme des savants. Il n'y aura plus de savants. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'aura plus de savants. Et quand il n'y aura plus de savants, il n'y aura plus de vrais chouyours qui ont pris cette science, parce que la science se prend. Innama al-ilmu yakhadhu min sudur al-rijal. Alayhi sakadhalik. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appris à ses compagnons, les compagnons, ils ont appris aux tabi'in, les tabi'in, aux atba' tabi'in, jusqu'à nos jours. Donc aujourd'hui, on assiste à des gens qui prétendent être des chouyours et des savants, et qui n'ont pas de cheikh, ils n'ont pas d'authenticité, c'est-à-dire la parole. C'est vrai, les livres, ils sont intéressants, les cassettes, les audios, les DVD, les CD, tout ça, c'est très important, c'est vrai, mais ça aide. Mais l'axe pour avoir une base dans la religion, il faut prendre cette science de la bouche des gens. C'est pour ça le sahabi, c'est qui le sahabi? On a parlé du sahabi, c'est celui qui a vécu à l'époque du prophète, il a vu le prophète. Celui qui l'a vécu à l'époque du prophète, mais il ne l'a pas vu, ce n'est pas un sahabi. D'accord? Il faudrait qu'il soit et qu'il meure en tant que musulman. Après la mort du prophète, il dit je ne suis plus musulman. Donc il a vu, regardez, vu, assisté au prophète. Donc aujourd'hui, effectivement, nous assistons à des fatawas à gauche, à droite, des gens qui n'ont jamais mis les pieds devant un savant ou un cheikh, au moins prendre une question. Tu l'as dit, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais étudié des mathématiques ne peut pas se permettre de parler en mathématiques. Quelqu'un qui n'a jamais étudié en médecine ne peut pas se permettre de dire, voilà, il ne peut pas. Mais la religion aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Hada halal, hada haram, hada yajouz, hada bid'a, hada shirk. Et on est tombé dans un grand problème. On est tombé dans un grand problème parce que ça devient, c'est l'anarchie totale. Idha usnida al-amru li ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a. Professeur Asselineau dit. C'est-à-dire, La chose, elle est remise entre les mains des gens qui ne sont pas du domaine. Ça, c'est quelque chose de très grave. Donc, on dit qu'aujourd'hui, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que la personne, elle est sur le minbar, ou bien la personne, elle a des cassettes, ou bien elle a écrit des ouvrages, que c'est une personne de référence dont il faut prendre. Il faut prendre en considération la vie de la Ummah. Qu'est-ce que dit la Ummah dans sa globalité? Le Nabi, alayhi salam, dit, ma communauté ne se met jamais d'accord sur quelque chose qui est faux, hein, qui est égaré, qui est dérivé. Donc il faut voir, c'est pas parce qu'un avis il découle d'une région, etc., ou bien d'un chir, il faut voir l'avis aujourd'hui qui est répandu dans la Umma et d'un personnage ou un savant qui est reconnu par son autorité, par sa science à travers le monde entier ou le monde musulman, ou à travers un ensemble de savants et de chiour qui reconnaissent l'authenticité de ce savant-là. C'est très important de voir quelqu'un qui n'a pas de cheikh, c'est pas la peine de prendre de lui, hein. Il n'y a pas de cheikh. Des gens qui prétendent être des grands spécialistes de la science du hadith et qui authentifient des hadiths et qui disent ce hadith il est sahih, ce hadith il est faux, ce hadith ceci, cela, ils n'ont aucun cheikh en science du hadith. C'est bizarre. C'est bizarre. Ils rapportent aucun hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par chaîne. Sayyidun al-Imam Malik, il avait 900 cheikhs. 900 cheikhs. 600 étaient atba' tabi'in, 300 étaient des tabi'in qui ont étudié chez les sahaba. Abu Hanifa, il avait 4000 cheikhs. 4000 cheikhs, vous imaginez. 4000 cheikhs, il a rencontré 6 des sahaba. Donc aujourd'hui, il y a des chouyouks, alhamdulillah, mashallah, qui ont étudié chez des chouyouks sur la science, elle est liée. Mais on assiste aussi malheureusement à beaucoup de gens qui prétendent détenir cette science. Et malheureusement, il est même utilisé en tant que fonds de commerce. Cette religion, elle est utilisée comme un fonds de commerce. Donc il faut faire très attention. Sachez que cette science est une religion. Sachez d'où vous prenez votre religion. Donc ça, c'est l'un un signe de fin de temps. Il y a des gens qui ont prétendu, d'ailleurs à l'époque du prophète, c'est Mohamed, je pense qu'il en a parlé, des gens qui ont prétendu. Donc des gens qui ont prétendu être des prophètes, déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Moussaïlima, il a prétendu être, même sa femme, elle a prétendu être une nabiya, et s'est mariée avec, après la mort de Moussaïlima, elle s'est convertie. Je ne me rappelle pas de son nom. Il y a beaucoup, aujourd'hui même le Qadianiya, hein, Ahmed Qadiani, qui est du côté il est de l'Inde, c'est une grande secte prétendue qu'ils sont musulmans, ils ne sont pas des musulmans, c'est des koufars, ils prétendent être le prophète. Le Nabi dit, la Nabi Abadi, mais moi je suis là. La Nabi Abadi, je suis là. La Nabi Abadi, c'est moi, le prophète, il m'a parlé de moi. Le prophète, il a dit, il n'y a pas de prophète après moi. D'accord, lui, il prétend être prophète. On assiste aujourd'hui à des gens qui se disent prophètes. Il y en a un, je ne sais pas, vous êtes au courant, en Algérie, il n'y a pas longtemps, un, il s'est prétendu être un prophète en Algérie. Là, je suis en train de citer les signes mineurs. On assiste à ça. Donc, vous allez trouver, c'est-à-dire le temps de l'hiver pendant l'été et le temps de l'été pendant l'hiver, on assiste. On commence à, hein, ça, c'est l'échauffement de la terre, etc. Ça, on commence à assister de cela, le professeur Asselam en a parlé. On a parlé que la science va être très 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 minime et l'ignorance va régner malheureusement. Ça parle de la science de la religion. Il y aura beaucoup de tueries, il y aura beaucoup de massacres aujourd'hui. Regardez, vous n'avez qu'à allumer la télé. Tous les jours en Irak, les gens meurent. Vous avez les Tutsis, les Hutus, en 4, 5, 6 mois, 800 000 sont massacrés. Les Américains, ils ont massacré les Indiens pratiquement. Ils ont laissé toute minorité. Donc, on assiste vraiment à des tueries. En Algérie, pendant 10 ans, 200 000 morts gratuitement. Donc, les massacres, ça ne manque pas. L'injustice, il y aura énormément d'injustice dans l'humanité. C'est-à-dire le temps, il n'y aura plus de baraka dans le temps. Avant, en une journée, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Zaman hein, yatakar, c'est-à-dire rapidement, oh, une année elle est passée, rapidement, le temps passe très très vite. Watakar al-aswaq aussi, avant, un marché, dans une ville, il y a un seul marché. Maintenant, tu as un supermarché ici, juste à côté, tu as un monoprix, juste à côté, tu as un... Donc, les marchés, il y aura énormément de marchés, les bourses, etc. Aïwa. وتداعي الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الكلاب على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. حديث صحيح. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, نعم. Imam Ahmed. يقول dans un hadith, il dit que il viendra un temps où c'est-à-dire les nations ils vont se jettent sur vous, sur la communauté musulmane, surtout, ils vont vous manger comme les chiens entourent un manger. Hein, ils vont vous manger de tous les côtés, on assiste aujourd'hui. Qui est-ce qui est, vous allumez la télé, où il y a les massacres, les tueries, etc. Vous avez en Afghanistan, vous avez en Irak, vous avez en Palestine, vous avez en Tchétchénie, vous avez en Bosnie, vous avez en Somalie. Donc, en Thaïlande, vous avez que le monde musulman qui, effectivement, d'autres mais ce qu'a dit le professeur Hassan, mais effectivement, on assiste. Qalu aw min qillati nahnu yawmidan rasulullah, lui on dit, ah rasulullah, sommes-nous, on n'est pas nombreux pour que c'est, il vient nous, il a dit au professeur, non, vous serez très nombreux, voilà qu'il n'a comme Routha, mais vous n'aurez pas de force. Routha, car Routha, c'est quand la pluie, quand il y a beaucoup de pluie, vous avez
de la mousse
qui traînait par la pluie, c'est-à-dire vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de valeur, pourquoi vous indirectement, le professeur Hassan dit, vous n'aurez pas de force, vous ne serez pas une. Vous ne serez pas organisé. Voilà, c'est-à-dire vous ne serez pas derrière le livre et la sunna. Hein? Vous serez derrière autre chose. Oui. Non, donc il y a les solidarité, etc. Et surtout la religion. Si on tient à la religion, on peut être très très petit de nombre, mais vaincre. Les musulmans, ils étaient 3000, et les kofars, ils étaient, je sais pas, 200 000, quelque chose comme ça. Ils ont résisté, ils ont gagné, c'est Nahar ibn Walid, il a fait des stratégies, etc. Mais le nombre, quand les musulmans s'attachent à la foi musulmane, à ce que le Coran a dit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils gagnent les batailles. Même s'ils ne gagnent pas, ils ne la perdent pas. D'accord ? Oui. Il y a beaucoup de signes, par exemple, le dhuhur nisa ariyat, kasiyat ariyat, ma'ilat mumilat. Donc il y aura des femmes qui vont, soi-disant elles sont habillées, mais elles ne sont pas habillées. C'est-à-dire elles sont habillées, mais elles ne sont pas habillées. Ma'ilat mumilat, c'est-à-dire qu'elles... Aïwa, non. C'est-à-dire que nous décrivent ce genre de femmes qui font basculer vers le shaitan. Beaucoup d'hommes et beaucoup de gens qui vont les tirer vers Jahannam al-A'udhu Billah. Non. Donc il y a pour les petits signes, la plupart des savants aujourd'hui disent que les petits signes, la plupart des petits signes à la Matsoura, kulluha qad dhaharat. Les ulama ils disent que les petits signes, la plupart des petits signes, on les a vus. On les a vus. Parmi les petits signes, dhuhur al-Mahdi. Ça, des savants ils disent, c'est le dernier. Grand petit signe. D'accord. Le Mahdi. Mahdi, n'am. Qital al-Rom, an yuqatil al-Muslimoun al-Rom, qital al-Yahoud fi Bayt al-Maqdis. N'am. Le prophète, c'est parmi les petits signes que Constantinople va être ouverte aux musulmans. Alhamdulillah, c'est Constantinople, comme on en a parlé. Et Rome, huma qalu, Rome qalu ala anha bilad kul bilad al-Rom. Yani kul bilad al-Kufr. Tasbah muslima bi hawlillah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier, n'am. Et le dernier, petit signe, le dernier petit signe, après il y aura des grands signes, c'est Dhuhur al-Mahdi. Dhuhur al-Mahdi, c'est-à-dire le Mahdi al-Muntadhar, contrairement à la croyance chiite, les croyants chiites, ils croient que le Mahdi, c'est un personnage, le douzième imam qui a vécu, ensuite, il y a l'âge de 10, 11, 13 ans, je crois, il s'est caché, ils ne l'ont pas vu, il va venir à la fin des temps sur un cheval blanc, etc. Tout ça, ça ne tient pas la route. Tout ça, c'est faux. Donc, chez nous, les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit d'ailleurs dans un hadith authentique, que le Mahdi va être un personnage qui, d'ailleurs, il va pas savoir qu'il est le Mahdi, qu'il est lui le Mahdi, mais Allah Azza wa Jalla lui fera savoir qu'il est le Mahdi. Hein. Il y a des riwayats qui le disent, il va être apparu du côté de Médine. C'est-à-dire le nom, il va être nommé, son nom d'ailleurs c'est Mohammed, et le nom de son père c'est Abdullah. D'accord. Et quelques savants, ils ont dit, d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de son père, et si c'est vraiment son père était un kafir, qui allait partir en enfer, il n'aurait jamais fait allusion à lui. Beaucoup de savants, ils ont fait, beaucoup de savants, ils ont fait cette remarque. Donc, l'imam al-Mahdi, quand il viendra, la terre, elle va être remplie d'injustice. Elle va être remplie. Volman wa
djouran. Avant lui.
Avant lui déjà, il y aura plein d'injustices partout. Et lui, il va remplir la terre. Les musulmans, ils vont le suivre. D'ailleurs, un grand roi musulman qui va prendre le flambeau, il va dire aux gens, venez, c'est le Mahdi qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyé, il faut le suivre. Et il y aura 300 saints, qui vont, les premiers qui vont lui faire la bay'a à Médine, c'était les premiers. L'allégeance, 300 saints qui vont lui faire la bay'a à l'allégeance. Ensuite, beaucoup de, c'est-à-dire tous les musulmans, ils vont le suivre. Et la justice va régner dans le monde. La justice va régner jusqu'à ce que ça se devienne, comme à l'époque, c'est Omar ibn Abdelaziz, tellement il y a le khayr, il y a le bien, etc. Ils ne vont pas trouver à qui ils vont donner la zakat, etc.
Non. Il y aura plus de pauvres et tout ça.
Exactement, exactement. Mais en même temps, à la fin de sa vie, il y aura une famine, une grande famine à la fin de la période de l'imam al-Mahdi. Et à cette époque-là, les musulmans, ils vont les suivre, il va leur dire que ne vous inquiétez pas, Allah Azza wa Jal va nous nourrir avec le dhikr, avec le tasbih. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين أبيت عند ربي c'est-à-dire je si on traduit littéralement je passe ma nuit chez mon Seigneur, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me donne à boire. Est-ce qu'il passe la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une maison, il va rencontrer son Seigneur? C'est de la métaphore. C'est dans Ibrahim Khalil Maqal, « Inni dhahibun ila Rabbi ». Quand il a dit, il est parti à Beit al-Maqdas, Allah, c'est pas dans le Beit al-Maqdas, c'est de la métaphore. C'est-à-dire, je passe ma nuit, je passe mes jours en une grande spiritualité. Je suis nourri de spiritualité. Donc la nourriture matérielle qu'on connaît, elle sera remplacée par, et on connaît beaucoup de chouyour, beaucoup de saints, effectivement, qui ont cette force de spiritualité, qu'il suffit qu'ils mangent un tout petit peu, mais Allah Azza wa Jal lui donne de la force à partir de ce qu'il remplit de spiritualité. Donc le Mahdi, Al-Muntadhar, il dit, ne vous inquiétez pas, vous serez nourri par le dhikr et le tisbih. Il sera de la descendance de Rasulullah, effectivement, il sera de la descendance de Sayyidina al-Hussein et Sayyidina al-Hassan. Donc il sera de la descendance de Al-Bayt. Les signes majeurs, Al-Alamat Sa'a al-Kubra. Al-Alamat Sa'a al-Kubra, adda al-Ulama, annaha ashara. Comme a dit, ashara. Avec qui ? Ashara, il y en a 10. On commence par Zuhur al-Masih al-Dajjal. Le premier signe, c'est le faux Messie. Le faux Messie, le Messie al-Dajjal, pourquoi on lui a donné ce nom-là? Parce que Ayel Awar al-Dajjal, il a un côté, il fait partie des humains. Wamin Jinsi Bani Adam. Donc il fait partie des humains. Hein? C'est une espèce humaine. Il a un œil complètement effacé. Il a un œil complètement effacé. C'est-à-dire du côté de l'œil, il n'y a rien. D'accord? C'est-à-dire il a un œil complètement effacé. Aïwa, et l'autre œil, c'est comme si c'est كأنه زبيبة أيوه عليكم أيوه عليه أيوه يعني جاحظة وكأنها يعني عنب قديم يعني صديق سيتانوي كي يغونفلي صورتي vraiment c'est mais un œil il sera complètement effacé. Donc c'est une créature. Il y a beaucoup de hadith. Il y a pas le professeur Asselmi dit le professeur Asselmi dit il y a pas un prophète qui a été envoyé qui n'a pas parlé du Messie al-Dajjal. Il dit, faites très attention, qu'Allah nous préserve de lui, faites beaucoup d'âge. Pour ça, il y a des hadiths, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min fitnat al-mahya ou al-mamat, fitnat al-Messie al-Dajjal. Donc la fitna du Messie al-Dajjal, parce que c'est une grande épreuve aux musulmans. C'est une grande épreuve. Donc le Messie al-Dajjal, soumis à Messie al-Dajjal, parce qu'il va, Allah Azza wa Jal va lui donner beaucoup de pouvoir, bien que c'est un menteur, il va tourner rapidement dans la terre, comme une flèche, il va tourner dans la terre toute entière, rapidement, il va laisser personne tranquille, il va partir dans tous les sens, dans tous les quartiers, donc il va...
Suivre.
Et il y a beaucoup de gens qui vont le suivre. Il va rester 40 jours. Juste 40 jours.
40 jours.
Ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith qu'il va rester 40 jours. Le premier jour, c'est l'équivalent d'une année. Le premier jour, c'est l'équivalent d'une année. Le deuxième jour, c'est l'équivalent d'un mois. Le troisième jour, c'est l'équivalent d'une semaine. Du mois. Une semaine. Donc, les sahabas, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment nous allons prier puisque une journée va, on va avoir une journée l'équivalent d'une année. C'est-à-dire, le professeur Hassan lui dit, calculez. Ils lui ont dit, est-ce que pendant ce premier jour qui gagne une année, est-ce qu'il suffit qu'on prie l'équivalent d'une journée? Il a dit non. Aqdiru, c'est-à-dire, vous allez prier l'équivalent d'une année. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a les calculs, etc. Et ça, à partir de là, les savants, ils ont tiré pour les gens qui vivent dans des endroits où il y a pendant 6 mois, c'est la journée. D'accord? Ils ont tiré de cela, comment faire la prière, etc. Donc, le Messie Ad-Dajjal, il va faire des c'est pas des miracles, il va faire beaucoup de choses qui sont inhabituelles. Par exemple, il va extraordinaire. Il va dire aux gens, prenez-moi comme Seigneur, comme Dieu. Je suis Dieu, je suis le Créateur. Il va dire, j'ai tous les pouvoirs, je suis le Seigneur, suivez-moi. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont le suivre. Entre autres, beaucoup de juifs vont suivre, beaucoup de chrétiens vont suivre. Effectivement, il y a des musulmans qui vont croire. Pourquoi? Parce qu'il va faire des miracles. Il va ordonner à deux personnages, quelqu'un qui a ses deux parents qui sont, ça fait très longtemps qu'ils sont morts, il va dire, tiens, je vais revivre tes parents. Il va transformer deux personnages. Ils vont venir à la personne, va dire, oui, nous sommes tes parents, oui, c'est Dieu, etc. Il va dire, voilà, la pluie, allez hop. Qu'il y ait de pluie, rapidement la pluie. Il va dire à l'herbe, pousse. Il va dire au fruit, pousse. Donc il va faire des choses. Il va même attraper. Ah, j'oublie une chose. Il va rentrer, il va aller partout sauf à Médine.
Il a
Mecque. Mecque ou le Médine. Khassatan, le hadith d'Akarat le Médine. C'est une grande épreuve. De tous les prophètes, ils en ont parlé. C'est une épreuve aux gens qui seront à cette époque-là. D'accord, c'est un grand test, c'est une grande... Et donc ce Messie Ad-Dajjal, donc il va aller partout sauf à Médine. Quand il va essayer de tourner autour de Médine, un personnage va sortir, il va lui dire, tu es le Messie Ad-Dajjal dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en a parlé, il nous a dit, faites attention à lui. Il dit, tu vas voir, je suis ton seigneur. Il va l'attraper, il va le couper en deux avec un coup d'épée. Il va le couper en deux. Et les gens, ils vont voir. Il va lui dire viens, il va rassembler les morceaux de ce musulman. Il va lui dire, voilà, maintenant je te rends la vie. Tu as vu, je t'ai coupé en deux maintenant. Il lui dit, c'est maintenant que je suis plus que sûr que tu es vraiment le Messie Ad-Dajjal, parce que le professeur Hassan m'a parlé de ce hadith. Il a dit, il va être coupé en deux, il va rassembler, etc. Donc les musulmans ceux qui tiennent à la croyance, qui font le dhikr, qui lisent, ils vont lire, surtout, ils ont dit au prophète, comment on peut se protéger? Il a dit, lisez surtout Sourat al-Kahf, lisez surtout, c'est pour ça que c'est bien de lire Sourat al-Kahf, et faites le dhikr, tenez-vous à votre foi, il ne va pas atteindre votre croyance. Et à ce moment-là, Sayyidina Isa, lui, il reste 40 jours, premier jour, une année, deuxième jour, un mois, troisième jour, une semaine. Sayyidina Isa, deuxième signe, Nuzul Sayyidina Isa. Sayyidina Isa, il va revenir, parce que Sayyidina Isa, comme vous le savez, contrairement à la croyance chrétienne, même les chrétiens, ils disent qu'il va être ressuscité, il va revenir. Mais nous, Sayyidina Isa, c'est un être humain, il va revenir, bien sûr, mais il sera musulman, il sera musulman, Sayyidina Isa, il va suivre la législation, c'est-à-dire musulmane. Sidna Issa, il va suivre la législation musulmane. Donc, du côté, il va apparaître du côté entre l'Irak et Damas, entre l'Irak et Damas, et Sidna Issa, c'est lui qui va tuer ce Messie Ad-Dajjal. Il va le combattre, il va tuer le Messie Ad-Dajjal. D'accord? Il y aura des musulmans avec lui, mais c'est lui, Sidna Issa. Et Rasulullah, il nous dit, ne vous inquiétez pas, quand Sidna Issa va venir, vous allez le reconnaître. Vous le reconnaîtrez, ne vous inquiétez pas, vous allez le reconnaître que c'est Sidna Issa, il va combattre le Messie Ad-Dajjal, c'est lui qui va le tuer. C'est-à-dire il est soulevé dans le premier, deuxième, troisième ciel. Il n'est pas.
Premier, deuxième ou troisième
ciel. On ne sait pas. Et ensuite il va revenir pris par. Les hadiths disent qu'il est pris par deux anges qui vont le descendre. Hein, du côté de la Syrie, il n'y a pas un problème. Donc c'est lui qui va combattre, il va tuer le Messie Ad-Dajjal
avec
des musulmans, bien sûr, qui seront avec lui. Il va rester en Palestine et Sayyiduna Issa, quand il va descendre, sur ces questions-là,
il faut se contenter des hadiths authentiques.
C'est pour ça qu'on a parlé des hadiths, il faut que ce soit hadith sahih, authentique. Il faut voir en bas, si c'est authentifié par qui. Et par qui qu'il est authentifié? Pas par...
Authentifié
par Al-Bukhari, par Imam Muslim. Authentifié par un hafid. Il faut que ce soit authentifié par un hafid. وَخُذْهُ حَيْثُ حَافِظٍ عَلَيْهِ نَصَّهُ. Il dit que le seul qui a... Qu'est-ce que c'est qu'un hafid? Celui qui connaît minimum 100 000 hadiths minimum, avec leur chaîne de transmission. Celui-là, il est daïf, Hassan, sahih, avec toute la chaîne de transmission, il connaît leur vie, il connaît les hadiths, les nesr, les mesur. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut faire sahih. Bref, aujourd'hui, les gens, ils prennent un livre, machin, tiens, hadith, ah, il n'est pas dans Bukhari, donc daïf. Non, ce n'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas en prenant un ou deux livres. Il y a des gens, ils ont pris deux livres, ils font sahih. Bref, non, ça ne se passe pas comme ça. Taïb. Donc, c'est Naïssa. Quand il sera descendu, l'imam, il y aura une prière, je ne me rappelle pas si c'était le Marab ou l'Aïcha, il y aura une prière, l'imam, les musulmans, quand ils vont voir, il va se retirer, il va dire à Sina Issa, c'est toi qui vas faire. Sina Issa lui dit non, c'est toi qui continue la prière, je prie derrière toi. Donc Sina Issa va prier derrière un imam musulman. D'accord. Il va rester.
Hein? Ce ne sera pas le mardi.
Non. Donc il va. Non. Ensuite, il va rester 40 ans. Sayyiduna Issa, il va rester 40 ans entre les musulmans. Ensuite, il va mourir. Et les musulmans vont prier sur lui. Il va être enterré, etc. Après Sayyiduna Issa, il y aura sorti de Ya'juj wa Ma'juj. Gog et Magog. Ya'juj wa Ma'juj. Ce sont. Aywa, sort le kaf. Donc ce sont deux grandes tribus, ce sont des humains aussi. On rapporte que c'est dans la descendance de Sidna Nuh. Ce sont deux grandes tribus. C'était des grandes tribus. Et leur nombre, il est tellement important par rapport aux humains. C'est 1 par rapport à 100. 1 par rapport à 100 par rapport aux humains. Leur nombre, il est tellement très important. Et c'est des gens qui ne sont pas des croyants, ce sont des kuffars. Et à l'époque de Dhulqarnayn, qui est un grand saint, donc l'histoire, elle est citée dans Sourate Al-Kahf. Les musulmans de l'époque de Dhulqarnayn, tellement les Ya'juj et Ma'juj, des grandes tribus, tellement elles ont fait du mal, les musulmans sont allés voir Dhulqarnayn, qui est un grand saint, et qui est, comme dit Cheikhoun al-Ghazali, il dit, Dhulqarnayn kana muhandisan kabirin, c'était un grand ingénieur. Dhulqarnayn, c'était un grand ingénieur, un architecte, etc. Car, aujourd'hui, dans la chimie, on parle de rassembler pour qu'une soudure soit forte, d'un rassemblement entre le fer et le cuivre. Hein, le Coran al-Karim, depuis 15 siècles, il en a parlé de ce que Dhulqarnayn a fait. Qala atuni zubar al-hadid. Donc, il a demandé aux musulmans qui sont allés le voir, ils ont dit, voilà, ces deux tribus-là, ils sortent de ils ont, c'est des montagnes, ils sortent d'un endroit, des montagnes. Comment on va faire? Donc, il a dit, il n'y a pas de problème, mais il faut m'aider. Voilà, ramenez-moi du fer, ramenez-moi du cuivre. On va boucher le trou. D'où sortent de cette montagne-là ces deux grandes tribus qui font des ravages dans l'humanité. Et à l'aide de... Ils ont soufflé, ils ont ils ont dessous le cuivre et le fer, ils ont fait un barrage, il a été soudé. Donc cette montagne-là, elle a été soudée. Donc ils ne peuvent plus sortir depuis l'époque de Dhulqarnayn. D'accord? Et depuis cette époque-là, ils essayent de faire un trou pour sortir. Ils n'arrivent pas. À chaque fois qu'ils travaillent, ils travaillent pendant une année pour faire un trou. Ils partent, quand ils reviennent, ils voient que Allah remis tout ce qu'ils ont fait comme trou. Donc pendant tous ces siècles-là, ils sont en train de faire le trou. Mais quand Sina Issa va venir, c'est Ya'juj et Ma'juj, ils vont pouvoir Allah Azza wa Jal, il va ordonner que le trou peut être troué et peuvent sortir. Ils peuvent sortir. Et Sayyidina Isa, les gens, ils vont le voir parce que tellement leur nombre, il est très important, tellement c'est impressionnant. Il va partir avec les musulmans et Jabal al-Tur en Égypte. D'accord. Donc, Yajuj wa Majuj, Gog et Magog. Donc, ils vont, bien sûr, Sayyidina Isa, avec des musulmans, ils vont partir à Jabal al-Tur. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de parce que comme ils peuvent rien faire devant les musulmans, Sayyidina Isa, il leur dit, la seule solution, c'est de faire des du'as pour qu'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire nous protège d'eux et qu'on finisse. Allah Azza wa Jal va envoyer des vers d'oud. Il va envoyer des vers qui va les attaquer, des vers, qui va les attaquer dans leur cou. Il va les attaquer dans leur cou. Il va exterminer tout Yajuj wa Majuj. Toute cette tribu de Yajuj wa Majuj va les exterminer. Mais tellement leur nombre est important, les hadiths disent que va y avoir des odeurs, c'est-à-dire parce que c'est des morts, des centaines de millions, je ne sais pas. Il y a des odeurs incroyables partout. Donc Sidna Issa va aussi faire des du'as pour qu'Allah Azza wa Jal va envoyer des oiseaux qui vont prendre tous ces corps et les jeter, c'est-à-dire loin. On dit que c'est du côté de l'Asie, etc. Donc ça concorde à ce qu'a dit le frère. Donc, ensuite, Allah Azza wa Jal va donner des pluies pendant plus d'un mois, des pluies torrentielles jamais vues, qui vont nettoyer toute la terre c'est-à-dire de la pourriture, de cette odeur qui est restée de Yajuj et Majuj. Voilà ce qu'on peut dire pour Yajuj. Ensuite, c'est dans cette période-là, après Yajuj et Majuj, c'est dans cette période-là que Sidna Issa va mourir. D'accord. Ensuite, l'un des grands signes, Tolu'u Shamsi min Maghribiha. Ensuite, le soleil va se lever du côté de l'ouest, contrairement de l'ouest en Tolu'u Shamsi min Maghrib. Et bien sûr, dans cette journée, une seule fois, et ce jour-là, c'est ce jour-là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de conversion. Ceux qui sont devenus musulmans avant le lever du soleil, c'est des musulmans. Mais celui qui voit le lever du soleil, il dit non, je vais dire, c'est trop tard. D'accord ? Non, c'est fini. Donc, en tant que l'Ashamsu, c'est-à-dire le lever du soleil sera du côté de l'ouest. Non, le lever du soleil sera du côté de l'ouest. Et la même journée, le soleil va se coucher du côté de l'est. D'accord ?
Combien ça va durer la journée, ça, on ne sait pas.
On ne sait pas combien ça va durer la journée, mais ça va se passer comme ça. Et ça sera une seule fois, une seule journée seulement. Une seule fois, une seule journée seulement. Et dans la même journée, il y aura autre chose. Il y aura un autre signe, un grand signe. Khuruj al-Dabba. C'est-à-dire, c'est un animal. Hein, c'est une créature, on va dire. Voilà ce qui est rapporté dans le Coran d'ailleurs. Khuruj al-Dabba, c'est une créature. Et je veux dire un mot sur la Dabba là, pour parler d'une secte qui vient d'être apparaître ici en France, qui s'appelle les Fourkaniens, les Fourkaniyoun, qui prétendent que Dabba, c'est une machine. Je ne sais pas si ce sont des gens qui ont vu beaucoup de dessins animés, Glendaiser, etc. Ils ont vu beaucoup de dessins animés quand ils étaient jeunes. Donc ils se situent du côté de Vesoul, c'est une secte du côté d'une région à Vesoul. Et ça s'appelle les Fourkaniens, et leur gourou, il s'appelle Ad-Dani. Ils disent que lui, c'est le Mahdi, et Dabba, c'est une machine que eux, ils sont en train de fabriquer. Et c'est une sorte de grande machine avec de atomique, machin, et un jour, elle va être sortie, cette machine. C'est des choses incroyables, une aberration pas possible.
Ils prétendent être musulmans.
Oui, ils prétendent être des chiites, musulmans. Ils sont même rejetés par les chiites, alors pour vous dire, ils sont rejetés par les chiites. Alors, que dire ? Donc, Khuruj al-Dabba fil ard. Donc, Dabba, elle va sortir. Cette grande créature dont Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran al-Karim. Donc, c'est le cinquième signe, grand signe. Elle va sortir, elle va parler, elle va distinguer tous les musulmans. Tous les musulmans vont les distinguer. Toi, tu es musulman, toi, tu n'es pas musulman. Anta fajr, ou anta kafir, ou anta. Donc, elle va distinguer, elle va parler. D'accord. Et tous les gens, ils vont l'entendre. Elle va séparer les musulmans des non-musulmans. Non, non, c'est une bête, c'est une créature divine qui va, que Allah a créé, qui va parler aux gens et elle va distinguer. Donc c'est un grand signe. Les musulmans et les non-musulmans. Voilà, c'est dans la journée même de la journée même de Tolou al-Shams min al-Maghrib wa ghurubuha min al-Mashriq. Sixième signe. Salam ala Rasulillah. Sixième signe, ad-dukhan, un gaz. Un gaz. Donc le sixième signe, c'est un gaz. Ad-dukhan, c'est un gaz qui va sortir. Hein, ce gaz-là, ce qui va sortir. Et ce gaz-là, il va pas tuer ni faire. Mais par rapport aux musulmans, ça sera un gaz kazoukam. C'est-à-dire c'est comme si tu as senti quelque chose et c'est comme si tu prends une petite grippe. Mais pour les kuffars, il va être terrible. Il va être terrible. Sabian, septièmement.
Donc c'est un gaz mortel pour les étudiants.
C'est pas mortel, mais qui va leur causer beaucoup de maladies terrifiantes. Terrifiant. D'accord?
Beaucoup d'irritation.
C'est-à-dire il va faire beaucoup de mal. Septièmement, en arabe on dit khusouf, mais c'est pas l'éclipse. Hein. C'est-à-dire qu'il va un shikar ou un shikar ou un shikar. Un shikar ou arv. Shikar arv. Shikar classique. Khasfu, n'am. Khasfu, n'am. Tel khusouf. C'est pas l'éclipse. C'est que la terre elle va s'ouvrir du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient et du côté de l'Ouest, la Terre va s'ouvrir, elle va absorber, c'est-à-dire elle va engloutir tout ce qu'il y a au-dessus d'elle. Donc il y aura c'est une sorte de tremblement de terre, mais c'est juste une ouverture. La Terre, comme un séisme, la Terre va s'ouvrir dans trois endroits du monde, l'Orient, c'est-à-dire dans l'Est de la Terre, l'Orient et l'Ouest et du côté de l'Arabie. Mais c'est ça les précisions qui sont ramenées dans le hadith. Huitième grand signe, Narun takhruju min qari Adan. Donc il y aura un feu, un immense feu qui va sortir du côté du Yémen. Un immense feu qui va sortir tellement ce feu-là, il va être grand et immense. Les gens, le Yémen, c'est du côté de l'Est, dans l'Orient. Le Yémen, Narun, Adan. Yémen. Donc les gens, ils vont fuir. Où est-ce qu'ils vont partir? Ils vont partir vers l'Ouest, hein, vers le Maghreb. Hein, les gens, ils vont fuir vers le Maghreb. Aïwa. Et l'avant-dernier, neuvième grand signe, donc ce feu-là, tous les gens, que ce soit musulmans ou non musulmans, ils vont fuir du côté du Maghreb, du côté de l'Ouest. Ensuite, après cela, il va y avoir un vent qui va être pour les musulmans une rahma. Ce vent-là va être pour les musulmans une rahma. C'est-à-dire tous les musulmans vont mourir quand ils vont sentir ce vent-là. Hein, Allah Azza wa Jalla va envoyer un vent, c'est-à-dire tellement les musulmans vont le sentir, ils vont mourir, tous les musulmans, il ne restera que les kuffars, il ne restera que les mécréments. La taqoumu sa'a hatta la yabqa ala wajhi al-ardi man yaqulu Allah, Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y aura pas la fin du monde jusqu'au moment où il n'y aura plus sur terre une personne qui dit Allah, Allah. Il n'y aura que des kuffars. D'accord? Et à ce moment-là, quand ce vent-là et prendra les âmes des musulmans, il ne restera que du kuffar, Ash-Shaytan va apparaître. Ash-Shaytan, Iblis, il va apparaître, il va dire aux gens, venez m'adorer, kuffar. Venez m'adorer, etc. Ils vont le suivre, ils vont l'adorer. Ils vont le suivre. Et à ce moment-là, Sayyiduna Israfil, l'ange dont on en a parlé quand on a fait le cours des anges, on a parlé de Sina Israfil, Yanfuchu, il va souffler, Yanfuchu Fissol, il va souffler, hein, pour que toute chose, toute créature qui est sur terre, elle va sa'iqa, c'est-à-dire elle va, hein, ils vont tous mourir, c'est-à-dire les kuffars qui sont sur terre, tous quand ils vont entendre tellement, c'est-à-dire tellement, c'est une... tellement le son, tellement il est fort, tellement il est fort. Vous voyez, juste un petit avion qui passe sur une maison, hein, les vitres elles sont cassées. Et ça, c'est un ange, c'est une Israfil. Allah Azza wa Jalla lui a donné un pouvoir, une force extraordinaire. Tous les gens qui seront sur terre, hein, quand ils vont entendre ça, vont mourir. Le premier souffle, c'est pour que tous seront morts. Le deuxième souffle, pour d'accord. Donc, voilà, j'ai terminé. Et pour l'akhira, ce sera un autre cours. Parce que on va parler de Nefr, je vais parler de Sirat, le Mizan, etc. Al-Hisab, etc. Donc voilà, Sidna Israfil, quand il va faire un Nefra, on s'arrête quand même sur sa moitié. Toute chose sera anéantie. Kullu man alayha fanin, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. C'est-à-dire toute chose sera anéantie, hein, ce sera halika, c'est-à-dire ce sera morte, sauf, aïwa. Les prophètes, ils sont vivants dans leur tombe. Les prophètes, quand Sidna Israfil, ils vont être évanouis parce qu'ils sont vivants. Les prophètes, ils sont vivants dans leur tombe. D'accord ? On a parlé de Hayat al-Barzakhi, etc. Sauf qui Sayyidina Moussa, parce qu'il a goûté quand Allah Azza wa Jalla a dit Arini, anzur ilayk, qala innaka tarani, qala fanzur ila jabal instaqara ma'akanu fa innaka tarani. فلما تجلى ربك الجبل جعله دكا فخر موسى صاعقا. Donc Sayyidina Moussa, quand il a demandé, ya Allah, je veux te voir, ya Allah, il lui a dit, si la tombe, je vais dévoiler un de mes signes à la montagne, je vais dévoiler mes signes à la montagne, si la montagne résiste, tu pourras me voir. Sayyidina Moussa, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la montagne, elle est devenue des poussières, il s'est évanoui. Donc, il s'est évanoui. Donc le jugement dernier, tous les prophètes vont s'évanouir, puisqu'ils sont vivants, sauf Sidna Moussa parce qu'il a goûté. Donc ensuite, les prophètes vont s'évanouir, ils vont se réveiller avec Nefra Thania, avec le deuxième. D'accord. Et dans la fin, on va voir dans la fin du monde, toute chose sera anéantie, sauf l'arwah, arwah l'anbiya, sauf al-lawh wa al-qalam, la table gardée et la plume qui a écrit al-arsh, al-kursiyu, les quatre grands anges qui sont cités pour Coran al-Karim, na'am kamal. Oui. Donc il y aura des spécificités quand Allah Azza wa Jalla dit kullu man 'alayha fan, c'est que Allah Azza wa Jalla dit que toute chose sera anéantie et je laisserai c'est-à-dire quelques créatures qui al-jannatu an-nar, la tafnayan aqidat ahli sunnah, ils ne seront pas anéantis. Tous les prophètes, déjà, ils sont tous vivants dans leur tombe. On a parlé de la tombe, c'est pas, c'est une vie, une autre vie. C'est pas qu'on va ouvrir, on va le trouver comme ça en train de. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Non, pour expliquer, pas juste pour toi, pour tout le monde. Famni, c'est pour tout le monde. Donc ils sont en vie, mais dans un autre monde, une autre vie. D'accord. Et c'est tous les prophètes, quand ils vont entendre le souffle de Israfil, ils vont, c'est pas qu'ils vont, ils vont s'évanouir, sauf Sidna Moussa. Tous les musulmans verront Allah Azza wa Jal fil Jannah, au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous verrez votre Seigneur au paradis comme vous voyez le Qamar, comme vous voyez la lune, la pleine lune. Pour la fumée, c'est pas précisé. Ah. Ouais, pour le Shuruq Shams min al-Maghrib,
Ça dure une fois,
une journée, mais comme a dit le frère, ces moments-là, les journées auront d'autres dimensions. On ne sait pas si c'est la journée comme aujourd'hui, 24 heures, ou autre chose. Par exemple, on a vu pour le Messie Dajjal, que sa première journée, elle est une année, l'équivalent d'une année. Les jours, ils sont pas. Il y aura comme avant exactement, il n'y aura que des mécréants, des gens qui adorent les statues, etc. Ce qui ne sera pas anéanti. Il y a les shuhada qui seront vivants. La tahsibana alladhina qutilu fi sabilillah. Shuhada, les martyrs. Il y aura les quatre grands anges connus. Et les prophètes, bien sûr, les prophètes, tous les prophètes. Le paradis et l'enfer aussi. Subhanaka Allah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa taqwan wa rahmatan ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana fi al-'arifin. وارزقنا الحكمة والعلم والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لغيرك طرفة عين. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. فرنا منك إليك، افتح علينا يا فتاح يا عليم. اللهم يا مولانا أنزل علينا من سحائب رحمتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.